Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Vous êtes nombreux à nous écouter dans le métro grâce au podcast. Et aujourd'hui sur Europe 1, c'est l'histoire du fantastique chantier du métro parisien que nous raconte Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour les Parisiens, et c'est vrai aussi pour les habitants de quelques grandes villes en France, Marseille, Lille, Toulouse, Rennes et Lyon, prendre le métro est une habitude à laquelle on ne fait même plus attention. Mais remettez-vous dans la peau des concepteurs du premier métro il y a un peu plus d'un siècle. Établir un tel réseau de transport souterrain relevait littéralement de l'exploit.
Je crois que c'est la parution de l'ouvrage d'Astrid Fontaine, Les Peuples des Tunnels, qui vous a donné l'idée de cette émission.
Oui, Le Peuple des Tunnels. En effet, il s'agit d'un livre passionnant dont Astrid Fontaine va venir nous parler tout à l'heure. On y partage le quotidien de ceux qui ont conçu, creusé, aménagé le métro, de ceux qui l'ont utilisé aussi. Et puis, surtout, j'ai découvert dans ce livre l'existence, à Paris, d'une ancienne compagnie privée de métro complètement oubliée. Vous savez, j'aime bien ces livres qui partent de l'archive pour nous révéler des pans entiers, des pans oubliés de notre histoire.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Et voici encore un sujet qui nous plonge au cœur des vieilles rivalités franco-anglaises. Pour ce qui est du métro, reconnaissons de manière magnanime que les Britanniques ont eu clairement 2 ou 3 longueurs d'avance sur nous dans l'affaire, et même plus d'une génération, puisqu'ils ont fondé le London Underground dès 1863, alors que celui de Paris ne devait voir le jour que pour l'exposition universelle de 1900, donc 37 ans plus tard. Les travaux vont commencer à Paris en 1898 sous la direction de Fulgence Bienvenu, vous savez, cet ingénieur des ponts et chaussées, manchot depuis un accident de train. Il s'était déjà illustré en perçant dans l'Est parisien l'avenue de la République et puis en construisant le funiculaire de Belleville. C'est une personnalité plus qu'attachante, ce cher Fulgence, nous allons y revenir dans un instant. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point les travaux du métro vont transformer Paris en une sorte de gigantesque chantier, comme une carrière pleine de rues éventrées pour construire les galeries à ciel ouvert. Quand je pense que nous nous plaignons aujourd'hui des travaux qui défigurent la capitale et qui entravent sa circulation, mais à côté, on pourrait presque parler de bricolage. La grande partie des premières lignes suit les grandes artères de la circulation parisienne et pour cause, leur construction se fait, je viens de vous le dire, par éventration des rues et aménagement à quelques pas de la surface. Mais pour d'autres tronçons, il arrive aussi naturellement que l'on creuse purement et simplement des tunnels à partir d'un grand puits vertical, ce qui relève constamment du tour de force. Or, on n'est pas en terrain vierge, loin de là. Il faut éviter tout un enchevêtrement d'obstacles, les égouts notamment, des caves, les conduites de gaz ou d'électricité, bien sûr, ce qui oblige les ingénieurs à multiplier les astuces et à renoncer le plus souvent au tracé rectiligne. Le métro parisien, du reste, est assez peu profond. On a choisi pour des raisons d'économie de le creuser le plus près possible de la surface, contrairement à ce qui se fait dans un certain nombre d'autres villes, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. Dès lors, le percement de toutes ces galeries ne peut que créer une infinité de problèmes en termes de mouvement de terrain, bien entendu. Il faut partout veiller à la solidité des assises des immeubles qu'il ne faudrait pas fragiliser en creusant le sous-sol comme gruyère. Autre obstacle et de taille, celui du franchissement de la Seine. On a d'abord pensé à des viaducs comme ceux d'Austerlitz ou de Passy. Mais comme les sols sont fragiles, il faut des fondations très profondes pour ces viaducs. Et finalement, on va souvent choisir la solution qui consiste à passer sous le fleuve. C'est le cas à Saint-Michel, par exemple. Et là, de nouveau, les chantiers s'inscrivent dans le registre de l'exploit et de l'exploit spectaculaire. On place au fond de la Seine des caissons qui font 40 mètres environ et qui sont joints entre eux. Tout ça nécessite des installations sans exemple qui drainent les foules restées bouche bée tout autour. Là, le chantier du métro parisien pendant tout le premier quart du XXe siècle va être la grande attraction de la capitale. En 1900, l'inauguration de la ligne 1 de Vincennes à la Porte Maillot, elle ne va pas encore au-delà et d'une façon générale, le métro dans ses premiers tracés ne concerne que Paris intramuros. Cette inauguration donc est un événement considérable. Il s'agit pour les Parisiens et pour les Français d'une grande première. Certains passagers en descendant sous terre retiennent, dit-on, leur respiration. Ils ont peur tout simplement d'être ensevelis dans un éboulement souterrain. Mais ces craintes, disons-le, seront vite balayées. La simplicité, la rapidité, l'efficacité de ce mode de transport sont sa meilleure publicité et le métro fait partie de ces innovations qui seront très vite et très largement adoptées par la population. Dès la Première Guerre mondiale, on peut dire que le métro est devenu naturel aux gens, on le prend à tout bout de champ et son succès ne s'est jamais démenti depuis, malgré les différents problèmes qui ont pu se poser au fil du temps. Je pense notamment à des questions de salubrité, évidemment, de sécurité, de surpeuplement aux heures de pointe, etc. Quand je suis arrivé à Paris il y a un certain temps, maintenant il y a 27 ans, vous vous rendez compte ?
Déjà ?
Mais oui, le métro était quand même assez souvent vide, hein, en dehors des heures de pointe. Aujourd'hui, il est tout le temps plein. À quelque heure que vous descendiez, c'est assez étonnant. Évidemment, toute une culture du métro va naître pendant le cours du XXe siècle. Les affichistes, les poinçonneurs, les mécaniciens vont enrichir la liste des petits métiers urbains. Nous allons revenir tout à l'heure sur cet univers métropolitain. Ce que je vous propose pour commencer, en compagnie de Jean-Michel Leblanc, qui est le responsable du patrimoine de la RATP, c'est de revenir aux origines du métro parisien et de nous replonger dans ce qui restera, avec le percement des grandes avenues du temps d'Haussmann, bien sûr, comme le plus phénoménal chantier de l'histoire de la capitale.
Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilles et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a dans ma rue.
Le trou de mon quai d'Hanem, une chanson sortie en 1928. Restez avec nous, on vous emmène dans le métro dans un court instant.
Europe 1.
Amoureux distrait, demain c'est la Saint-Valentin et Europe 1 vous propose de jouer aujourd'hui et demain, tout au long de la journée, pour tenter de gagner de nombreux cadeaux pour vous, pour votre Valentin ou votre Valentine. Alors expliquez-nous un peu ça, Julien.
Eh bien, nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner un coffret beauté Clarins pour femmes, avec notamment le soin star de la marque, le double sérum, plus des soins visage et corps et un festival de produits Clarins. Valeur du coffret, 300€ tout de même. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe de circonstance, cœur, singulier, évidemment, par SMS au 739-21, 50 centimes plus code à SMS, ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Nous annoncerons le nom du gagnant ou de la gagnante à la fin de l'émission. On vous souhaite avec Franck bonne chance à tous.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
Et avec votre premier invité sur Europe 1, Jean-Michel Leblanc, qui est responsable de l'ingénierie culturelle et du patrimoine à la RATP.
Bonjour Jean-Michel Leblanc.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Alors, je parlais de ce chantier absolument phénoménal. On a des photos incroyables de cette construction du métro parisien. Ça a été la grande affaire du début du XXe siècle. Ce qu'il faut dire, c'est que les Anglais nous avaient donc devancé depuis longtemps, puisque depuis le milieu des années 1860, il y avait à Londres un métro.
Effectivement, Londres avait son métro depuis 1863 et avait créé la première ligne, la Circle Line. Mais en fait, quand on regarde bien, Paris a bien fait d'attendre, en quelque sorte, hein, je dirais. Pourquoi ? Parce que ce qui est arrivé à Londres, c'est l'introduction du chemin de fer à vapeur.
Dans
Londres, avec un tissu urbain qui était aussi un peu plus lâche que celui de Paris. Et en tous les cas, ça correspondait pas du tout à la volonté du préfet de la Seine, qui voulait lui un métro qu'il puisse tutoyer, il le dit. Et donc à une version, on va dire, beaucoup plus urbaine et beaucoup plus, avec des dessertes beaucoup plus courtes en tous les cas.
Alors on s'est posé quand même des questions sur le mode de traction, sur les tracés bien entendu, sur l'organisation générale du métro. Quiconque est allé à Londres sait qu'aujourd'hui encore c'est un sac de nœuds. Très difficile à comprendre, le métro londonien. Chez nous, c'est d'une simplicité extraordinaire.
C'est d'une simplicité. Je pense que on a tiré bénéfice aussi de tous les projets qui sont arrivés, que ça soit Hague, que ça soit Chrétien, que ça soit Eusé, qu'on fait des projets qui, d'ailleurs, étaient plutôt des projets de surface, puisque c'était des projets aériens.
C'est ça, bien sûr. Oui.
On intégrait d'ailleurs plutôt un projet de surface parce qu'on pensait à la traction vapeur. Et auquel cas, évacuer les fumées, c'était quand même pas très simple dans des tunnels. Et donc, on a orienté en tous les cas toute la structure du métro, effectivement, sur les axes principaux.
On avait commencé à envisager ce métro parisien donc dès les années 1880. Et puis il y a l'exposition universelle de 89. Et là, on se rend compte que le métro fait cruellement défaut à une ville qui devient un pôle d'attraction phénoménal à l'échelle planétaire. Et donc, il va falloir trouver une solution. Ça va accélérer évidemment les choses.
Oui, on a raté 89. Oui,
on ne veut pas rater 1900.
On ne veut pas rater 1900. Voilà, alors, 1900, plus il y a deux rendez-vous. Il y a le rendez-vous aussi des Jeux Olympiques à l'été.
Mais oui.
Et donc, on veut pas le rater. Donc, on met tout en œuvre. Et c'est d'ailleurs aussi un peu pour cette raison que l'État lâche et qu'il déclare le métropolitain comme d'intérêt local. Pour effectivement que la ville de Paris puisse s'équiper du métro pour l'Expo universelle.
Alors, il y a deux ingénieurs qui vont mener l'opération. Fulgence Bienvenu, que tout le monde connaît plus ou moins parce qu'il est devenu un peu l'emblème du métro parisien. Un petit bonhomme assez extraordinaire, hein, il faut dire, qui avait un caractère bien trempé.
Tout à fait, oui. Breton.
Un breton, ça ne s'invente pas. Et puis, alors, celui dont on ne parle jamais, Edmond Huette.
Alors Edmond Huette était le directeur des travaux de la ville et en fait il avait pris la suite d'Alphand.
Grand ingénieur de l'époque du Second Empire.
Exactement. Hein. Et Edmond Huette s'est associé effectivement à Fulgence Bienvenu dans la définition. Dès 1998, il travaille sur l'avant-projet et tire bénéfice, je dirais, de tout ce qui s'était passé auparavant pour à la fois intégrer une logique d'un métro souterrain et aussi d'intégrer un phénomène qui arrive vers la fin des années 1890, qui est la félectricité, la capacité effectivement de pouvoir tracter le métro par l'électricité.
Alors comment est-ce qu'on a construit ce métro et à quoi est-ce qu'il ressemblait ? C'est ce que nous voyons ensemble dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Nous vous emmenons aujourd'hui dans le métro sur Europe 1 avec un certain nombre de révélations qui devraient vous amuser.
Alors oui, notamment nous allons parler dans un court moment maintenant de cette compagnie privée de métro dont personnellement je n'avais jamais entendu parler. Je n'ai peut-être pas une référence,
c'est assez
neuf comme idée. On va y venir dans un instant. La compagnie principale, c'est celle du chemin de fer métropolitain de Paris. C'est la CMP. Hein,
c'est la CMP qui a été créée en 98 et qui est issue de la CGT, la Compagnie Générale de Traction du Baron Rampin, qui effectivement où la ville de Paris décide en fait de lui concéder l'exploitation effectivement du métro.
Alors je me suis dit que j'allais raconter dans le cadre du récit de cette émission, j'allais raconter l'inauguration du métro. Je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a rien à raconter, c'est assez étonnant, ça n'a pas été un très gros événement l'inauguration en soi.
L'inauguration du métro en fait n'a pas eu lieu en quelque sorte.
Ça, oui.
N'a pas eu lieu. Pour des raisons simples, c'est que l'Expo universelle a démarré le 14 avril, le métro est arrivé le 19 juillet.
Oui. Donc, avec un peu de retard.
On va dire quelques mois de retard, avant la fin de l'Expo universelle. Oui. Mais ceci dit, au mois de juillet, avec 3 mois de retard. Donc du fait, c'était une ouverture du métro et pas une inauguration du métro, avec quelques officiels.
Alors, via Facebook, un de nos auditeurs nous dit « Ce que j'aime surtout, ce sont les entrées contemporaines des stations du métro apparues dans le style Art Nouveau au début 1900. » C'est ces fameuses stations de Guimard qui vont faire la célébrité du métro parisien.
Alors, qui vont faire la célébrité du métro parisien. En fait, Guimard, Adrien Bénard, qui est le président de la CMP, a lancé un concours pour obtenir effectivement des émergences dans Paris de qualité. Et le concours est infructueux. Il répond, il va chercher Guimard, il lui pose la question et Guimard répond très rapidement. En quelques mois, il propose ses entrées avec ce style Art Nouveau aujourd'hui très réputé.
Et aussi le style nouille, comme on dit.
Le style nouille, mais aussi avec tout un système mécanique de réalisation et de construction très moderne pour l'époque et qui permet de s'adapter en fait à toutes les entrées de stations de métro.
Les gens ont un peu peur de descendre dans le métro, évidemment. Hein. Ça n'est pas, à l'époque, on n'a pas l'habitude, tout simplement.
Pour deux raisons, hein. C'est que d'une part, je pense que dans l'imaginaire des gens, le souterrain, c'est la correspondance de la mort en quelque sorte. Et c'est vrai. Et les premiers articles, on compare les voyageurs à des rats en quelque sorte qui vont dans les égouts.
Ça va très vite être balayé.
Très vite, très rapidement. L'autre élément, effectivement, c'est que le métro, c'est le premier à utiliser l'électricité, mais malgré tout. C'est un métro qui n'est pas très éclairé. On a une ampoule de 15 watts tous les 5 mètres, ce qui n'est pas du tout l'éclairage d'aujourd'hui. Et on imagine effectivement, heureusement qu'il y avait une voûte blanche qui permettait effectivement de transmettre cette lumière.
En 1903, survient un accident qui va évidemment inquiéter la population, objectivement. C'est l'incendie de 1903.
Hein. L'incendie de 1903 à la station Couronne, en fait, qui n'est pas l'incendie d'un métro, du métro transportant des voyageurs, mais d'un métro qui précède, qui a une avarie technique, et c'est les dégagements de fumée à la station Couronne qui vont créer cette panique et qui vont créer effectivement un accident de 84 morts, quand même, ce qui est considérable.
C'est beaucoup. À quoi ressemblent les rames du métro de l'époque physiquement? Ça ressemble à quoi, ce métro?
Alors, le métro...
On est dans les années 1900, avant la Première Guerre mondiale, disons. Hein.
Oui, alors en fait, ça avait évolué très, très rapidement. Et d'ailleurs, la catastrophe de Couronne est un des éléments déclencheurs de l'évolution, en fait, des matériels métro. Mais quand, au tout début, on est plutôt sur un tramway, on est sur des wagons qui sont en bois, qui sont montés sur des essieux. Et très, très rapidement, en 1903, suite à cette catastrophe, on se pose la question, effectivement, de comment garantir la sécurité des voyageurs. On transforme, on isole en fait la cabine de conduite qui devient métallique. Mmh. On fait passer tous les systèmes électriques en dessous sous le châssis et on met des bogies à la place des essieux. Mmh. Et on transforme, c'est le début des matériels SPAC qu'on va connaître jusqu'en 1983.
Oui. Et alors, ce sont des voitures qui sont en bois encore, évidemment.
Alors, une partie.
Il y a trois classes ou deux dans le métro?
Il y a du 3 et après 2, en fait.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et on est arrivé, la loge était en métallique et la zone effectivement transportant les voyageurs était en bois. Et progressivement, le remplacement des véhicules va se faire et vont devenir totalement métalliques.
Alors, décidément, ça fait un peu le vétéran là aujourd'hui. Mais je me rappelle qu'autrefois, quand j'étais petit, il y avait une très grosse différence de confort entre les voitures de première classe qui étaient rembourrées, assez belles, et les voitures de deuxième classe qui étaient des bancs en bois, hein, tout simplement.
C'était... Oui, tout à fait. C'est exactement. On avait aussi les porte-chapeaux qui étaient intégrés aux voitures. Mais aujourd'hui, quand vous reprenez, il y a une certaine nostalgie sur les banquettes bois qui fait que...
Alors, il y a quelques temps, je ne sais plus à quelle occasion, on avait ressorti de vieilles voitures, de vieilles rames du métro. Et alors, c'était stupéfiant parce que dans les stations actuelles, évidemment, on voyait arriver ces vieilles voitures et les gens applaudissaient. Ils étaient ravis de voir ça, en fait. Hein. On devrait les ressortir de temps en temps.
Ça fait partie des opérations qu'on essaye de mettre en place au moment des journées du patrimoine, en place le matériel historique et de le refaire. Bon, ça devient plus difficile pour des raisons de sécurité aujourd'hui.
Alors nous allons dans un instant parler des évolutions du métro et puis de toute la culture qui s'est développée autour du métro. Vous qui dirigez le patrimoine de la RATP, vous êtes bien placé pour connaître tout ça, évidemment. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce sera demain, la Saint-Valentin.
Je suis bien d'accord, c'est demain. Nous vous proposons de jouer pour tenter de gagner un coffret beauté Clarins pour femmes, avec notamment le nouveau soin star de la marque, le double sérum plus des soins visage et corps et un festival de produits Clarins. Valeur du coffret, je le rappelle, 300 € pour vous inscrire au tirage au sort. Vous envoyez le mot de passe c'est cœur par SMS, c'est 3921, 50 centimes plus coût d'un SMS, ou bien vous nous appelez au 3921, 34 centimes d'euros la minute. Nous annoncerons avec Franck le nom du gagnant de la gagnante à la fin de l'émission. Bonne chance à vous.
Mais oui, avec plaisir. Jérôme me dit que je suis chauvin et qu'en fait le métro londonien est beaucoup plus simple que le métro parisien et que sa signalétique est bien plus évidente.
Et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1, on s'intéresse au métro, à son évolution, à sa culture aussi, Franck.
Et oui, une culture du métro qui fait bien sûr maintenant partie de notre quotidien, mais qui a mis un peu de temps à s'installer. La grande époque du métro, est-ce qu'on peut dire que c'est l'après-Première Guerre mondiale? Là, on voit les lignes se multiplier littéralement. Hein.
Avant la première, du moins jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on a réalisé pratiquement quand même 95 km de voies et on est à peu près, on va dire, au tiers, un peu plus du tiers de ce que représente le réseau aujourd'hui. La phase juste après, c'est-à-dire plutôt dans les années 25-30, ça va être la décision de porter le métro en banlieue
et
de réaliser effectivement ses prolongements. Aussi parce que la population a changé, les coûts augmentant, une partie de la population parisienne
est allée s'installer hors de Paris.
Exactement.
peu à peu, oui, tout l'habitat populaire de Paris s'est un petit peu expatrié.
Tout à fait.
Alors, il y a eu cette... je parlais tout à l'heure de la dimension touristique des travaux même du métro. Il ne faut pas oublier que c'était une attraction considérable, notamment les lignes de franchissement de la Seine. Hein. Ça a été vraiment un exploit.
Avec des franchissements sur viaduc, avec des portées...
Bien sûr.
Et avec des franchissements... encore plus spectaculaire.
Sous le fleuve,
avec la congélation d'un des bras de la Seine, afin de creuser effectivement les sédiments, afin d'enfuir les caissons dont vous parliez tout à l'heure, caissons étanches, par système de fonçage, c'est-à-dire par immersion, ont été intégrés dans le sous-sol de la Seine, en quelque sorte.
Ah oui, ça devait être assez extraordinaire à voir, bien
entendu. Oui, surtout que tous les caissons étaient fabriqués sur les berges. Donc le spectacle des travaux, il était en direct, en quelque sorte.
La numérotation actuelle des lignes de métro a changé, en fait. Ce n'est plus les numéros des anciennes lignes.
Alors, si on fait de l'histoire de la numérotation, ouais, ça change énormément.
Ouais.
La ligne 1 est restée...
C'est la seule, évidemment.
La ligne 2...
Ce qu'on appelle la ligne 1, pour ceux qui ne seraient pas du tout familiers de Paris, c'est la grande ligne transversale qui va d'est en ouest ou d'ouest en est, comme on voudra, et qui suit un peu le tracé de la Seine, qui va en gros de la Défense jusqu'à Vincennes.
Et si on prend un autre exemple, qui sont les lignes circulaires, la circulaire sud, elle s'appelait la 2 à l'origine, la 2 nord est restée ligne 2. La 2 Sud est devenue pendant un temps la ligne 5 et aujourd'hui s'appelle ligne 6.
Ouais. Bon, alors allez comprendre.
Je crois que ça s'explique sur un plan.
On va parler de cette compagnie Nord-Sud avec Astrid Fontaine, parce que ça c'est ce qui m'a le plus surpris dans toute cette affaire. Juste un mot des métiers du métro. Il y avait les guichetiers, bien entendu, il y avait les mécaniciens, enfin les conducteurs, comment est-ce qu'on les appelle d'ailleurs, quel est le terme, le conducteur du métro. Et puis bien sûr, les poinçonneurs. Alors, il y a 40 ans, on a supprimé les poinçonneurs dans le métro. Et voilà ce qu'au micro d'Europe 1 déclarait une dame dont le métier était poinçonneuse, précisément. Finalement, elle a l'air de nous dire qu'on n'allait pas beaucoup regretter ce métier-là.
C'est faire des trous, à longueur de journée, tous les jours la même chose. Il n'y a pas d'histoire, des trous.
Mais tous les jours, les mêmes gens.
Tous les jours. Bien sûr, dans les stations, c'est toujours les mêmes habitués. Mais vous savez, j'aime mieux vous dire qu'ils ne sont pas toujours agréables. Hein. Ça, je tiens à dire qu'ils nous traitent des fois comme des chiens. Hein.
Pourquoi ?
Parce qu'on leur fait un trou dans les billets et ça, ils ne peuvent pas l'accepter. Ils nous insultent, c'est tout, ils nous traitent de tous les noms. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse les trous. Mais malheureusement, je crois que pour certaines, pour beaucoup d'ailleurs, les trous, ça va être bientôt fini. Et le travail, terminé. Et pas de possibilité de reclassement. Hein. À ce âge-là, on ne se reclasse pas, vous pensez ? 60 ans. Moderniser, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous allez faire de tous ces gens ?
C'était en février 1972, au micro de Pierre Chatignoux. Cette dame, finalement, a l'air de dire que son métier n'était pas très passionnant. Alors, on est vite passé au tourniquet, puis des tourniquets aux portes à air comprimé. Enfin, tout ça a beaucoup évolué, évidemment.
Oui,
Jean-Michel Leblanc.
En fait, dès 68, on commence à parler du ticket magnétique. Et progressivement, on va mettre en place effectivement les péages automatiques. Alors avec plusieurs technologies, effectivement, les portails pivotants, les portails à effacement, ainsi de suite. Pas mal de technologies. Mais en fait, ça fait disparaître une partie d'une population du métro et ça en crée une autre. Ça crée aussi tous les mainteneurs afférents qui vont s'occuper de cet automatisme. Et Dieu sait que il y a vraiment un grand nombre de passages automatiques sur le métro aujourd'hui.
Alors, parmi les grandes affaires du métro, et je pense que c'est peut-être le plus grand fait divers qui ait jamais eu lieu dans le métro parisien, il y a bien entendu l'assassinat de Laetitia Toureau. C'est ce que je vais vous raconter dans un instant.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Reader Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, pareil qu'il n'y a pas de saut métier, moi je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous.
Le poinçonneur de Lila, premier succès de Serge Gainsbourg sur Europe 1. Et on passe donc au récit, Franck.
Le dimanche 16 mai 1937, il est 6h du soir, il est 6h25 exactement. Il faut imaginer un ciel couvert, on craint l'orage, et ce qui fait que les gens se pressent aux bouches du métro pour essayer d'entrer avant que l'orage n'éclate. On est porte de Charenton, une rame attend la minute précise du départ, on est en tête de ligne. Alors il faut dire que dans les voitures de seconde, il y a quand même pas mal de monde, entre 100 et 120 personnes. Vous voyez d'ailleurs la grosse différence qu'il y avait à l'époque entre première et deuxième classe, hein, parce que en première classe, il y a une seule voiture déjà, et dans la voiture, il y a une seule personne, une femme vêtue d'une robe de laine verte, on a beaucoup raconté ça bien sûr, et coiffée d'un chapeau blanc, elle a été tellement, tellement représentée. Le sifflet, parce qu'à l'époque c'est un agent qui donne le départ avec un coup de sifflet, les portes se ferment, et on démarre, première station, Porte Dorée. La rame arrive 1 minute et 2 secondes après son départ, ce qui est tout à fait normal. Une centaine de voyageurs attendent, ils se précipitent parce qu'on arrive dans, c'est la première des stations, hein. 6 personnes montent en première, en 2 groupes, de 3 personnes chacun. Et je ne vais pas entrer dans tous les, je ne vais pas vous décrire tous les gens qui entrent dans la voiture. En tout cas, à un moment, vous avez un médecin-major qui est là en uniforme, une dame, un jeune homme. « Ven, dit mademoiselle Marie Catin, en voyant le compartiment presque vide, on va pouvoir s'asseoir. » Mais le corps au chapeau blanc, qui vacillait depuis l'arrêt de la voiture, comme si la voyageuse était en train de sommeiller, ce qui peut arriver hein, dans le métro, le corps, d'un seul coup, s'est écroulé, il est tombé en avant. Alors les jeunes filles qui sont là poussent un cri, le fameux officier qui a pénétré dans le wagon par une porte plus proche du siège occupé s'est précipité, il relève le corps et puis il le laisse retomber, en essayant de l'allonger quand même avec précaution. Elle n'en a plus pour longtemps, dit-il aux gens qui sont là, complètement stupéfaits, terrifiés. C'est qu'elle porte au cou une large tache rouge, une tache de sang évidemment, et qu'il est évident qu'on se trouve en présence d'un crime. Rien à faire, dit le fameux médecin-major, veine jugulaire tranchée, je ne peux vraiment rien pour elle. Et il montre du doigt un couteau encore piqué dans la gorge de la malheureuse et que dans le premier émoi, personne n'avait vu. Et puis, en écartant les jeunes filles, il pousse devant lui ses 2 compagnons, il redescend de voiture avec eux, il disparaît. Il ne s'est pas déroulé plus de 15 à 20 secondes depuis l'entrée de la rame en gare. Donc il disparaît, ce bonhomme. Les jeunes filles montrent un peu plus de sang-froid que ce bonhomme, que cet officier. Un peu moins de précipitation à fuir les embêtements, si l'on peut dire. Elles alertent le chef de station qui accourt, qui constate le drame. On téléphone à police secours, évidemment. Et puis, on interdit l'accès du compartiment de première avant que les policiers n'arrivent, évidemment. On va suspendre le trafic. À 18h34, la police est sur les lieux. Et on peut dire que la police a été vraiment très très rapide dans cette affaire. Et on va lancer une enquête, une grande enquête. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, dans ce crime de Laetitia Toureau, c'est qu'on est en présence du crime parfait. On est aussi, ne l'oublions pas, 1937, dans une époque de grande agitation politique, sociale. On est à une époque où la presse est une presse à scandale. Et évidemment, on va faire de l'affaire Laetitia Toureau un très grand sujet. Ça va être le grand sujet du fait divers, c'est le fait divers de l'année. On peut dire que c'est le grand fait divers de l'avant-guerre. Alors, ce qu'on peut dire de façon sûre, c'est que Laetitia Toureau était vivante à 18h24, et même peut-être quelques secondes plus tard, et que lorsqu'elle est arrivée à 18h26 à la station Porte Dorée, elle était blessée à mort. Le crime s'est donc exécuté en moins de 2 minutes, probablement même, en 1 minute 20, et on n'a pas vu sortir de criminel. Donc, c'est un peu comme si c'était un fantôme qui l'avait tué. Vous imaginez les manchettes de la presse. Ce crime parfait, ce crime du fantôme, cette femme. Alors, qui est-elle, cette femme? On va se mettre à fouiller dans sa vie, et Dieu sait qu'il y a d'ailleurs à y voir dans sa vie. Elle devient sans doute la personne la plus célèbre de France. Tout le monde sait tout sur Laetitia Toureau, tout le monde croit tout savoir, veut en rajouter bien entendu. On parle d'activités secrètes qu'elle aurait eues, on dit qu'elle aurait été, vous savez, elle aurait été un peu un briseur de grève dans les 2 entreprises où elle avait travaillé, qu'elle renseignait le patronat. Mais on se dit aussi, on finit par apprendre, on apprend qu'en 1929, à la suite de batailles qui avaient opposé violemment fascistes et antifascistes de Paris, l'ambassade italienne avait confié sa police à une agence privée qui était dirigée dirigé par un commissaire de police de province, qui est décédé d'ailleurs en mars 1937, donc deux mois avant le fameux drame. Et sur les feuilles d'émargement de ce bonhomme, on relève le nom d'une dame Nourissa, dont le domicile était un hôtel de la rue de Cléry. Et il semble bien que cette dame Nourissa, c'est notre Laetitia Toureau. Alors on va formuler toutes sortes d'hypothèses. Il faut dire que la police entendra en tout quelques 450 témoins en deux semaines. C'est une... Évidemment, l'opinion publique est tellement agitée par l'affaire qu'on s'intéresse énormément à ce sujet, à ce crime, et on va formuler un certain nombre d'hypothèses. Des hypothèses plus ou moins fiables, plus ou moins fragiles, évidemment. Est-ce que l'assassin était vraiment un familier de la victime? Certains disent quand même que ce dimanche 16 mai, pour la première fois, Laetitia Toureau, je vous ai dit qu'elle avait ce chapeau blanc et cette robe verte, c'est la première fois qu'elle quittait les habits de deuil qu'elle portait, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais qu'elle portait depuis quelque temps. Et on l'avait vu, c'est assez étonnant parce que elle était brune, toujours habillée en noir. Et là, le 16 mai, on l'avait vue rousse, avec une robe verte à chapeau blanc, un peu comme si elle cherchait à échapper à un poursuivant, comme si elle cherchait à modifier son apparence. C'est une des possibilités, évidemment. On a évoqué l'idée qu'elle ait pu être associée à un certain nombre d'opérations étrangères. Et notamment, certains ont dit qu'elle avait appartenu au deuxième bureau français. En juin 1937... Le Reynolds Weekly de Londres va monter tout un énorme roman dans lequel il place Laetitia au service successivement des renseignements militaires français, mais aussi des renseignements de Scotland Yard. Finalement, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est qu'après avoir été plus ou moins enterrée, elle va rebondir en 1962, puisqu'en 1962 paraît dans la presse la lettre d'un homme qui s'accuse du crime. Voici exactement ce qu'il raconte. Il se dénonce comme l'assassin. Je vais vous lire dans un instant, juste après l'interruption, je vais vous lire la lettre de cet homme qui dit « J'ai tué Laetitia Toureau ».
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui, je vous le rappelle, nous relate l'assassinat de Laetitia Toureau.
Et cet assassin de Laetitia Toureau, en 1962, envoie une lettre à la police du judiciaire. Alors il raconte toute son histoire, qui est une histoire d'amour. On est loin de nos histoires de deuxième bureau. On avait parlé, évidemment, on avait dit que Laetitia Toureau faisait partie de la cagoule ou qu'elle avait été manipulée par la cagoule, etc. En l'occurrence, on serait dans le cas de figure d'un crime passionnel. Le 2 mai, raconte le fameux assassin, j'allais à l'hôtel Hermitage où je savais la trouver. Elle accepta de monter dans ma voiture et nous convînmes de nous retrouver le 16 mai à l'Hermitage et de dîner ensemble. Ce 16 mai, elle me fit savoir qu'elle n'était pas libre. Elle devait assister à un banquet de Val d'Itin. Dans ma furieuse déconvenue, je l'accusais d'avoir un autre rendez-vous. Elle s'était fait teindre en rousse, donc ça c'est... il confirme bien, et portait un costume de couleur vive. Elle avoua qu'elle avait en effet rendez-vous avec un autre et me montra le billet qu'elle avait préparé à l'intention d'un certain Jean. Elle ajouta qu'elle ne tenait pas à me revoir. J'étais fou de rage. Je rentrais dans ma chambre, j'y passais plusieurs heures, puis je décidais d'aller malgré tout à l'Ermitage. Avant de partir, j'avais glissé dans ma poche le couteau que j'avais acheté en compagnie de camarades un jour où nous voulions épater des filles. Je pris ma voiture, je me rendis au dancing, devant l'établissement, timidité ou orgueil, j'attendis devant la porte. Elle sortit vers 18h, elle alla prendre l'autobus, je la suivis en voiture. Lorsqu'elle descendit porte de Charenton, j'entrai dans le métro derrière elle. Elle s'installa en première, je l'appelai alors qu'elle venait de s'asseoir. Étonnée, elle se retourna, je sortis mon couteau et le lui plongeai dans la gorge. Elle n'eut pas le temps de pousser un cri. Je recalai le corps qui avait basculé et descendis rapidement pour remonter en seconde classe dans la voiture suivante. La rame partit aussitôt. Je ne comprends pas que les gens n'aient pas remarqué mon trouble. À la station Porte Dorée, le remue-ménage m'apprit que le corps avait été découvert. J'envisageais d'aller me renseigner pour savoir si Laetitia était morte. Je fus incapable du moindre geste. J'avais peur d'apprendre que je l'avais tuée. Je vis passer la civière et je faillis me trouver mal. On nous garda une demi-heure encore. Ce temps me parut un siècle. Si un policier m'avait interrogé, à ce moment-là, je me serais effondré. Je pense qu'on peut dire que ça, ce sont des aveux et ça a l'air assez crédible. Il s'appelait Monsieur Fernet, l'homme qui s'accusait si longtemps après du meurtre de Laetitia Toureau. Et je me rappelle qu'à la fin des années 1970, dans une émission de Pierre Belmar avait lancé un appel à témoins. Il avait demandé aux gens qui en savaient davantage de téléphoner. Et il y avait eu au standard un coup de téléphone. Pierre Bellemare avait pris la communication et au téléphone, il n'y avait rien. C'était un grand silence, c'était un moment de télévision absolument dramatique. Et l'on pensait toujours, en cette fin des années 70, que le meurtre de Laetitia Toureau demeurait un mystère. Il me semble qu'après la lecture de la lettre que je viens de vous faire, ce mystère est passablement éventé.
La petite Madeleine que j'ai connue à Saint-Lazare, je l'ai choisie pour son superbe corps bizarre. Elle avait le sein placide et un sacré businval. Elle avait tout un arsenal. Je craignais que ce fût une fille du calvaire, pour quelqu'un faut se méfier du chardon la gâche. Et pour pas garder la marque, lui fallut que j'aille à Pasteur, moi pour Suffren, non Bercy. Elle me répond qu'elle s'en tamponne le froissard.
Pierre Perret sur Europe 1, Bercy Madeleine, parole faite de jeu de mots sur les noms des stations de métro, métro qui fait réagir nos auditeurs.
Et oui, Céline nous dit, j'ai 40 ans, je me souviens d'avoir connu jusqu'au début des années 90 la première et la seconde classe. De quand date la fin de la première classe de vous, demande-t-elle, à vous Jean-Michel Leblanc?
La fin de la première classe, c'est 1991.
Voilà, c'est donc bien ça, c'est bien voilà. Le tout début des années 90. Merci, nous dit Soussika par internet. Le premier métro continental, ne l'oublions pas, est celui de Budapest. Alors oui, on faudrait parler de tous les autres métros. Hein, on n'aura pas le temps aujourd'hui.
On n'a pas le temps, mais Budapest, c'est 1896.
Oui, hein, c'est ça. C'est très peu de temps avant Paris, mais c'est avant.
Ah, c'est avant Paris et c'est électrique.
Et c'est électrique déjà. Il faut dire que cet empire austro-hongrois a été très en avance hein, pour toutes ces questions en fait.
Oui, très en avance, mais à la fois ils ont fait qu'une seule ligne.
Oui.
Donc après, on regarde du métro parisien, voilà.
Oui, ça n'était pas énorme, évidemment. Ça tient aussi à la conformation de la ville, hein, faut dire, qui est tout en longueur. Alors, bonjour Astrid Fontaine, merci d'être venue nous parler du Peuple des Tunnels, 1900-1930, qui paraît chez Ginko. Vous avez mis en couverture une photographie d'une entrée de métro. Alors, on est à la station Chambre des députés, donc c'est la station Assemblée nationale d'aujourd'hui.
Voilà.
Et il y a écrit en très gros dessus, Nord-Sud. Qu'est-ce que c'est que cette découverte que vous avez faite ?
Alors, la Compagnie du Nord-Sud était une petite compagnie de métro qui a construit en fait uniquement deux lignes sur tout le réseau du métro parisien, la ligne actuelle 12 et la 13, et qui était en fait la concurrente, en quelque sorte la petite concurrente de l'imposante et municipale CMP, Compagnie du Métropolitain Parisien.
Alors cette petite concurrente, elle a disparu relativement tôt, il faut le dire.
En 1930, en fait, oui, elle a pas survécu. Elle a été absorbée en fait par la CMP en 1930.
Elle avait un fondateur que vous faites revivre, qui s'appelle Jean-Baptiste Berlier. Qui était-il, ce monsieur Berlier ?
Alors Jean-Baptiste Berlier, c'est un personnage assez étonnant, assez intéressant, puisque quand on regarde un peu les encyclopédies et les articles sur ce personnage, il est déclaré comme ingénieur ayant fait l'école des mines de Saint-Étienne.
Il a un très beau cursus officiel.
Ouais, très magnifique cursus.
Sauf que quand on creuse un peu...
En réalité, il n'a fait aucune de ces écoles. Par contre, c'était certainement un autodidacte de génie et qui a réussi en fait par la qualité de ses inventions et leur efficience en fait à se faire reconnaître et à construire quand même... à proposer un projet de métro à traction électrique dès 1887, en fait.
Donc il était un précurseur.
C'était un vrai précurseur.
On peut le dire. Et il va obtenir des concessions, mais il est l'investisseur principal de ces travaux. Hein.
Voilà, contrairement à la CMP, en fait, pour la CMP... La
CMP
ville...
qui est, on va dire, un peu l'ancêtre de la RATP, d'une certaine façon. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vous vois grimacer, Jean-Michel Leblanc. Oui.
Non, je ne grimace pas. La CMP était essentiellement, du moins, en 1941, elle a réintégré le réseau de surface. Effectivement, on peut considérer que c'est la société qui précède la RATP.
La RATP fondée en 1949.
49, exactement.
Donc, en fait, la CMP a été en partie subventionnée par la ville de Paris, en tout cas pour tout ce qui est l'aspect construction des galeries. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le Nord-Sud, en fait. Le Nord-Sud a réalisé la totalité de ses tunnels à ses frais. Voilà, donc c'était une compagnie totalement privée, en fait.
Alors, vous avez été fouillé dans les archives de cette compagnie, en vérité. Vous y avez trouvé alors des photos, beaucoup de photos.
Des photos de la construction qui ne sont pas forcément très explicites. Beaucoup de photos floues, beaucoup de photos de chantier, en fait. Et puis surtout, un fonds assez extraordinaire qui est constitué par les dossiers du personnel de cette compagnie. Donc ça représente 4848 dossiers du personnel qui a exploité en fait ces deux lignes entre 1910 et 1930.
Vous avez fait ce que l'on appelait, quand je faisais des études, de la micro-histoire. C'est-à-dire vous êtes allé dans ces dossiers de personnel et vous avez fait revivre les parcours de tous ces petites gens, on peut dire.
Voilà,
on peut dire,
tout à fait. Tous ces anonymes.
Les anonymes, voilà.
En fait, c'est pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est pas uniquement des dossiers administratifs qui méritent un traitement statistique.
Loin de là. Hein.
Loin de là. Il y a énormément de données très personnelles, très intimes. Il y a énormément de lettres, en fait. Il y a une correspondance énorme entre les employés et leur supérieur à la compagnie. Donc j'ai travaillé en fait à partir de ça. Enfin, c'est vraiment la matière première du livre, c'est le témoignage direct écrit par ces gens de leur vie quotidienne.
Alors sur la couverture, vous avez mis 9 photos. Sur les 9, il y a 2 femmes. En fait, il y a beaucoup d'hommes dans cette.
C'est un monde très masculin. Il y a seulement 11% de femmes, mais elles sont quand même présentes. Hein. Pour beaucoup, elles vendent des tickets en fait essentiellement.
J'ai dit tout à l'heure, petites gens, vous avez rectifié anonymes. Ce sont, quoi qu'il en soit, des gens très modestes. Leurs revenus sont faibles.
Leurs revenus sont très faibles. Ils sont effectivement d'origine modeste pour la plupart. Même s'il y en a qui ont bénéficié d'éducation assez importante. On est aussi dans une période où la précarité est très très grande et où les conditions de vie sont extrêmement difficiles sur Paris et en France d'une manière générale. Voilà, donc c'est effectivement des gens qui...
La journée de travail est de 10 heures et on travaille évidemment pour l'essentiel sous la surface du sol par définition.
Quasiment
c'est une
toujours.
Compagnie de métro. Donc, et avec des rapports qui peuvent être assez agressifs avec la population. On a tendance à dire nous vivons dans une époque d'incivilité, etc. C'était bien pire à l'époque d'après ce que vous nous décrivez.
Oui, c'était bien pire. La violence physique, le rapport à la violence physique.
C'est incroyable. On se tapait dessus assez volontiers.
On se tapait dessus dans la rue, on se tapait dessus sur les quais du métro. Et effectivement, on n'hésitait pas à en venir aux mains. En fait. C'est un rapport à la violence physique qui a quand même... pour beaucoup disparu aujourd'hui. En fait.
On voit évoluer cette compagnie avec le temps, évidemment.
Oui.
Les rapports sociaux, notamment, changent, surtout après la Première Guerre mondiale. Ça a tendance à se dégrader plutôt même en fait. Hein.
En fait, après la Première Guerre mondiale, il y a donc une expansion économique qui est à nouveau de retour. Simplement, les salaires n'augmentent pas et les conditions de vie sont toujours aussi difficiles. Donc, la belle époque, donc avant la Première Guerre mondiale, c'est l'époque des grandes grèves. Ensuite, il y a la guerre, la période de la guerre qui est très traumatisante. Et après guerre, en fait, c'est également une période de grève et de revendications et de lutte sociale importante. Donc il y a effectivement des mouvements de revendications très, très durs.
Jean-Michel Leblanc, cette compagnie Nord-Sud, elle disparaît donc relativement tôt.
Oui, elle est absorbée en 1931, au 1er janvier 1931, par la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris. Jusqu'alors, d'ailleurs, les lignes s'appelaient A et B et elles réintègrent la numérotation.
Voilà, donc ça va devenir les lignes 12 et 13, en fait.
12 et 13,
qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Pour les grands connaisseurs, on peut distinguer, on peut observer des nuances, évidemment. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, la ligne 12 a très peu changé. La ligne 13, en fait, c'était que la partie nord, celle qui était au-dessus de Saint-Lazare et qui allait jusqu'à Jules Geoffrin. Et après, ça a été rattaché avec un bout de la ligne 14 pour en faire une ligne 13. Voilà, complète.
Merci beaucoup d'être venu faire revivre ce métro des origines. Astrid Fontaine, Le peuple des tunnels, 1900-1930, c'est chez Ginko Éditeur. Bonjour Elena Mornard.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme chaque mercredi, nous parlons de la famille avec les experts européens. Et ce qui nous intéresse, ce sont les couples qui restent ensemble quand l'amour a déserté la maison, qui restent ensemble pour les enfants. Hasard de la programmation, nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Et pourtant, c'est de ça dont on vous parle aujourd'hui. Si vous voulez témoigner, réagir, poser vos questions, c'est maintenant au 39-21, 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr.
Nous sommes à la veille de la Saint-Valentin, Elena, et nous avons joué et gagné, Julia.
Bravo à notre gagnante, il s'agit de Pascal qui habite à Sainte en Charente-Maritime. Elle remporte un superbe coffret Clarins. À demain, Franck, sur Europe 1.
À demain, Julia.